Bienvenue à l'Éclectique Show. L'Éclectique Show, c'est quoi? C'est un podcast qui traite de sujets qui m'intéressent, de life hacking, de technologie et de mes découvertes. L'épisode d'aujourd'hui est un petit épisode parce que j'en ai fait un il y a quelques temps. Alors, je veux juste essayer des petits formats. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, l'épisode est au mois. Mais je vais essayer de le faire aux 2 semaines. On va voir. On essaye de se croiser les doigts pour que ça fonctionne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à @profduweb ou sur la page Facebook. Vous pouvez me suivre sur Twitter à Eclectic Show. Vous pouvez me suivre sur Facebook, l'Eclectic Show. Sur Instagram, l'Eclectic Show. J'essaie de tout centraliser au nom de l'Eclectic Show pour le podcast. Alors, ça vous intéresse, abonnez-vous soit à la page Facebook, soit au compte Instagram, soit le compte Twitter. J'essaie de mettre de l'information, des trucs cool pendant la semaine, juste pour animer tout ça. Alors, on va commencer cette semaine avec des petites nouvelles sur l'intelligence artificielle, le salaire minimum. Ah oui, on va parler de salaire minimum. On va parler aussi de gros salaires pour ceux qui voudraient en faire. On va parler de Spotify, une petite polémique dernièrement qui est arrivée. J'en ai parlé dans mon streetcast. Je vais vous faire écouter ce dont j'ai parlé dans mon streetcast. On va parler de défenseurs de la voix publique avec une nouvelle application. Alors pour ceux qui seraient intéressés de défendre la veuve et l'orphelin, le bon conducteur, vous allez avoir une application bientôt qui va sortir. Probablement en Europe aussi, mais visiblement ça cible l'Amérique du Nord. On va avoir plusieurs aussi applications dont on va parler. On va parler aussi de quelques nouvelles insolites. On va parler aussi de diminuer son stress avec Tetris. On va parler aussi de Merlin Mann, celui qui a créé le concept de Inbox Zero, qui semble revenir sur ses paroles. Alors on va commencer l'émission tout de suite. On va commencer avec l'intelligence artificielle. C'est une actualité qui vient du Canada, qui vient d'ici. Selon le gouvernement fédéral canadien, l'intelligence artificielle ne menacerait pas les emplois directement. Des fonctionnaires fédéraux ont mené une vaste enquête sur l'effet de l'automatisation et de l'intelligence artificielle au pays afin de voir si les technologies représentaient une réelle menace pour le marché de l'emploi au Canada. Et conclusion, le scénario catastrophe est grandement exagéré. Selon eux, 11% des emplois au pays pourraient être automatisés d'ici 15 à 20 ans et un autre 29% risque de changer substantiellement. Je vous le dis souvent dans les émissions, on est en pénurie de main-d'œuvre. Alors, je pense que ça va juste combler un petit peu la pénurie, mais bref, on a encore besoin beaucoup de monde. Alors, il y a rien qui va nécessairement disparaître ici, précise toutefois le rapport, et c'est un lien du National Post.
Qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois. Et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans mon cœur.
On parlait de main-d'œuvre. Est-ce que vous connaissez la chaîne Taco Bell? Taco Bell, c'est une chaîne de fast-food américaine qui fait des. La nourriture, on va dire, un petit peu espagnole. Pas espagnole, mexicaine. Et pour les Mexicains qui m'entendent, peut-être que je vais dire une hérésie, une folie furieuse. Mais bref, Taco Bell, c'est une chaîne de fast-food américaine. Et ils sont en problème de recrutement eux aussi, comme au Canada. La chaîne américaine Taco Bell est si désespérée qu'elle est prête à offrir un salaire de 100 000 $ à quiconque souhaite obtenir un poste de gérant dans sa chaîne de ses restaurants du Midwest et du Nord-Est américain. Midwest, Nord-Est, c'est un peu dans le coin du Québec, là, un petit peu. Avec un taux de chômage de 3,5%, le marché de l'emploi est de plus en plus difficile pour les employeurs et se voit forcé d'améliorer substantiellement les conditions salariales de leurs travailleurs. Ça vient de Bloomberg. Quand je vous dis qu'on a besoin de monde, c'est partout.
Partout.
On parle beaucoup de salaire, de travail, ainsi de suite. Dans le début de l'émission, j'ai retrouvé une autre actualité, je trouvais ça vraiment drôle. Un salaire minimum en hausse, un taux de suicide en baisse. Hausser les salaires minimums d'aussi peu que 1$ de l'heure aurait pu sauver des dizaines de milliers de vies en Amérique du Nord si on se fie à une étude qui vient tout juste de paraître dans The Journal Epidemiology and Community Health. À partir des données compilées aux États-Unis, des chercheurs concluent qu'une hausse de 2$ de l'heure pour le salaire minimum aurait permis d'éviter pas moins de 57 000 suicides entre 90 et 2015. Alors évidemment, moi ça me fait bien rire parce que oui, effectivement, dans beaucoup d'aspects ça aurait beaucoup d'incidence, un meilleur salaire minimum, mais visiblement on veut augmenter les parts de marché, on veut augmenter les bénéfices pour les patrons et on oublie souvent la classe moyenne et plus basse même. Une actualité de Mac Forever qui a suscité mon attention. Ça a été publié par un de mes amis sur Twitter. Le titre, c'est Spotify, un système pour insérer de la publicité ciblée en temps réel dans les podcasts. Je pense que ça va être le dossier du mois, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous lire l'actualité rapidement. Spotify compte bien rentabiliser ses efforts pour devenir la plateforme de prédilection des amateurs de podcasts en misant sur les publicités. La firme va mettre à profit les données utilisateurs en sa possession pour nourrir son nouveau système répondant au doux nom de Streaming Ad Insertion SAI. Afin de proposer des publicités ciblées au sein des différents podcasts qu'elle héberge. Spotify pourra donc insérer des publicités en temps réel en fonction de l'analyse des données des utilisateurs. On dit bien que c'est des publicités ciblées au sein des différents podcasts qu'elle héberge, OK? Les auditeurs d'un même podcast recevront donc une publicité différente à l'image de ce que propose déjà Spotify dans les divers services de musique en streaming. En fonction de leur âge, leur sexe, intérêt, appareil utilisé et location, les annonceurs recevront de plus des statistiques plus précises quant à la portée de leurs annonces, comme le nombre de fois qu'un auditeur a été touché. La technologie ne fonctionnera évidemment que lorsque l'épisode sera téléchargé. Mais la société diffuse principalement ses émissions en streaming. Selon Jay Richmond, vice-président de la publicité chez Spotify, très peu de clients téléchargent en fait les épisodes. Et ça, je vous le confirme parce que moi, j'ai un compte podcaster chez Spotify. Spotify nous permet d'ajouter nos podcasts sur cette plateforme-là. Et elle nous donne aussi des bonnes statistiques. Et je vous confirme que pour Apple différemment, j'ai pas les stats pour ReLife, là, mais pour Apple différemment, puis pour l'Eclectic Show, plus de 80 du monde sont en streaming. Il y a peut-être un rare ratio de personnes qui téléchargent les choses. Oui, je vous confirme que c'est une majorité de personnes qui font juste du streaming. Actuellement, les annonceurs mesurent le succès en suivant un nombre de personnes qui ont visité l'adresse URL, utilisé le code promotionnel ou partagé les annonces sur les réseaux sociaux. La société n'utilisera sa technologie SAI que sur ses propres émissions dans un premier temps. Les premiers tests évoquent une capacité des auditeurs à se souvenir d'avoir écouté une publicité augmentée à 180% grâce à ce système. La société affirme porter une attention toute particulière à la confidentialité des données. Blablabla. Vous allez avoir, il y a juste une personne qui a mis un commentaire sur Mac Forever. Et moi j'en ai parlé dans mon petit streetcast, les coulisses du show. Je vous fais écouter ma réaction quand j'ai vu cette nouvelle-là. Je vais appeler cet épisode-là du calme. Sur Twitter, il y a mon ami Kyoul. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Je connais son vrai nom, mais je l'appelle Kyoul. Q-U-E-Y-U-L. Qui vient de publier que Spotify a un système pour insérer des publicités ciblées en temps réel dans les podcasts. Et il met un lien pour aller sur une actualité de Mac Forever. Mac Forever. avec une bonne prononciation. Spotify va être capable de mettre de la publicité et de monétiser les podcasts, ses podcasts, ses créations, dans un premier temps, c'est ça qui est indiqué dans l'article, et va pouvoir mettre de la publicité plus ciblée en fonction de l'âge, du genre, de l'appareil et des habitudes d'écoute. Alors, faut comprendre que Spotify est arrivé et dans le domaine du podcast il y a un petit peu plus d'un an, même plus qu'un an, et a commencé à faire des créations originales et a racheté Anchor, qui est une plateforme de publication de podcasts. Anchor offre aussi d'insérer de la publicité, de la monétisation pour les créateurs. Spotify va mettre de la publicité dans ses propres créations dans un premier temps, c'est ce qui est indiqué. Ma réaction à chaud en lisant l'article, c'est ben, tant mieux. Tant mieux. Si les podcasts peuvent être monétisés, s'il y a de l'argent à faire et que ça, dans le fond, ça fait une promotion du podcast indirectement, parce que Spotify fait la promotion du podcast, rend ça accessible, offre une application de podcast, tant mieux. Honnêtement, je suis vraiment pas choqué. Je vous lis à chaud rapidement l'échange qu'il y a eu face à ça, parce que Kyoul, mon ami, c'est un ami personnel en plus, a pigné Guillaume et moi-même. Alors, Guillaume répond, « Je n'ai absolument pas compris si les créateurs peuvent profiter de la rémunération. » Alors, Kyoul répond, « Ce n'est pas très clair. » Ensuite de ça, Guillaume répond, Guillaume Vendée, mon autre ami, « Perso, si je ne touche rien, je retire direct mes podcasts de Spotify. » Kyoul répond, « Clairement, ce ne serait pas correct. At Spotify, any comments. » Ma réaction par rapport à ça, c'est si un créateur de podcast a de la publicité et ne touche rien, en quoi c'est différent avec, exemple, l'application Podcast Addict qui met de la publicité pour financer la création de son application? Pourquoi la publicité audio serait différente que la publicité visuelle? C'est ça que j'ai un peu de difficulté. Et deuxième truc, si une personne est embêtée par la publicité qu'il peut y avoir dans Spotify en audio, ben, elle peut changer d'application si elle aime tant ça les podcasts. Si elle aime pas tant ça les podcasts, ben, qu'elle reste dans Spotify parce que c'est intégré avec son application. Moi, ce que je trouve qui n'est pas clair par rapport à Spotify, c'est tout simplement le fait que si une personne paye un compte Spotify, de facto, elle n'a plus de publicité et elle peut choisir sa musique. Et est-ce que ça va retirer la publicité sur les créations de Spotify Podcast? C'est à voir. Mais dans tous les cas, moi, quand un grand majeur comme ça fait la promotion du podcast, je peux juste m'en réjouir. Il a fait une super belle application. Il y a des moyens de partager pour les créateurs de podcasts qui sont vraiment cool, même pour les gens qui aiment les podcasts qui sont vraiment cool. L'interface est belle. C'est simple, c'est soigné. Il y a beaucoup de créateurs d'applications de podcasts qui n'ont pas réussi à faire ça après 10 ans, alors que Spotify est arrivé en un peu moins de 2 ans et a réussi à faire ça. J'ai rien contre le fait qu'ils se fassent de l'argent. Ça ne m'empêche pas de faire de la promotion pour mon financement participatif. À ce titre, Guillaume, et ce serait cool qu'on puisse avoir un échange comme ça par un streetcast interposé, ça ne retire pas le fait que tu peux continuer à faire la promotion dans Tech Café, par exemple, de ton financement participatif. Ça retire en rien ça. L'auditeur va peut-être avoir deux publicités, peut-être il va être enquiquiné par cette publicité auditive et peut-être serait intéressé plus à aller forer pour avoir moins de publicité. Je pense que ça peut donner une opportunité aux créateurs de faire la promotion de Patreon, justement, parce que dans Patreon, tu peux faire un flux privé avec absence de publicité. Alors, moi, je vois juste que des bonnes opportunités à ce que Spotify fasse ça, à ce que Spotify soit dans l'univers des podcasts. Oui, Spotify fait des créations qui vont être enfermées dans son écosystème. Grand bien leur fasse. Si les gens aiment les podcasts et si les gens veulent en découvrir plus, ça va très bien savoir un jour qu'ils auront besoin de sortir de Spotify pour connaître d'autres trucs si Spotify commençait à s'enfermer un peu plus dans le podcast. Moi, je pense que c'est juste bon. Ça crée une habitude pour les gens qui écoutent des podcasts, même si c'était hypothétiquement, dans un écosystème très fermé. Ça éloigne les gens des radios que je trouve poubelles, avec, tu sais, pour une heure de radio, peut-être 30 minutes de publicité, et peut-être à l'intérieur des capsules, des publicités indirectes. Moi, je suis pas plus choqué que ça. J'ouvre le débat. Je suis très, très ouvert à ça. Je suis ouvert à changer mon opinion. En fait, j'en ai... A priori, moi, je suis toujours très ouvert à ce que les gens fassent de l'argent quand tout est clair, quand tout est correct. Je vois pas ce que ça me retire. Maintenant, va falloir travailler peut-être pour ceux qui ont des financements participatifs. Ben, une solution de créer des podcasts plus privatifs, sans publicité, une fois que les gens s'abonnent, pour avoir quelque chose de cool. Patreon offre ça, c'est vraiment chouette. Fait que bref, on ouvre le débat, les amis. On parle de podcast. Est-ce qu'on est pour ou contre que Spotify commence à mettre de la publicité? On s'en doutait tous, messieurs, mesdames, qui en font, que ça allait arriver. Mais là, on va pas crier « Ouh, 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 c'est pas correct ». On s'en doutait tous. Ça arrive. Ben, discutons-en. Allez, ciao, ciao.
Alors, c'était la partie où je discutais sur mon streetcast. C'est un peu mon argumentaire. Et aussitôt après, mon ami Cueilloul, qui, vous le découvrirez, s'appelle Philippe, a réagi.
Salut Matt, c'est Philippe. Je voulais te répondre par rapport à ton dernier streetcast concernant la publicité sur Spotify. Pour ma part, j'ai tendance à comparer Spotify à YouTube, qui est finalement une plateforme de diffusion de contenu et qui ne serait rien sans des créateurs de qualité. Au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer YouTube ne pas rémunérer les créateurs et garder l'argent pour eux, l'argent de la publicité bien évidemment. Je pense que si Spotify fait ça, il part dans la mauvaise direction, clairement, parce qu'une plateforme de diffusion de contenu sans des créateurs, de qualité qui plus est vouée à l'échec. Donc pour moi, il faut comparer ça à YouTube et puis partir un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire le partage des gains par rapport à la publicité. Et voilà, je pense que tout ira pour le mieux si ça part à ce niveau-là. Et effectivement, les créateurs de contenu peuvent toujours faire un Patreon pour faire des épisodes sans publicité pour les abonnés qui payent déjà quelque chose.
Alors ça, c'est l'argumentaire de mon ami Philippe. Et puis, ben l'autre personne qui a réagi, c'est mon ami Guillaume. Je vous laisse vous faire votre propre idée avec son argumentaire à lui. Et ben discutons-en dans les médias sociaux à Eclectic Show sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Je vous laisse avec Guillaume. Et après ça, une petite page de publicité.
Salut Matt, je te remercie d'avoir clarifié l'aspect publicitaire de Spotify sur les podcasts. En particulier, clarifier le fait que les podcasts de Spotify allaient faire l'objet de publicité. Et puis bah, j'imagine, peut-être, hein, j'ai pas été creusé encore, mais que si on est abonné Spotify payant, peut-être qu'on peut s'affranchir les pubs. En tout cas, ça c'est pas mal. Au sujet de ton... En tout cas, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'analogie avec les publicités dans une application comme Podcast Addict. Parce que Podcast Addict, par exemple, les publicités... sont dans l'app sur le plan visuel et ça ne perturbe pas du tout le sens premier du podcast qui est l'audio. Dans le cas de Spotify, si j'ai bien compris, ce sont des publicités au début, à la fin ou au milieu de l'épisode, ce qui pour moi nuit à l'expérience.
Petit moment publicité où ben je vous explique un peu comment vous pouvez faire pour m'aider, parce que oui, le podcast, ben, je le fais tout seul, mais je le fais aussi grâce à vous et ben grâce à vos encouragements. Alors, il y a plusieurs moyens de m'encourager. Le premier qui est assez direct et qui fait vraiment plaisir, ben, c'est la plateforme Patreon, patreon.com, où vous pouvez commencer à m'encourager à partir de 1 euro par mois. Et ben, je vous explique un peu, en quelque sorte, comment ça m'encourage. D'abord, quand des gens me donne de l'argent, je me sens tout de suite redevable. Et ma façon d'être redevable, c'est de toujours produire. Alors, produire des podcasts, produire des capsules, produire des billets de blog, mais toujours produire. Et ça, c'était vraiment un bon moyen pour moi de m'encourager à produire. Alors, ça paye pas tout, mais ça paye aussi certains autres podcasteurs parce que je me suis abonné à d'autres Patreons via l'argent que vous me donnez. Et en bout de ligne, ben, ça nourrit tout un écosystème de podcasts et de productions auxquels je participe. Alors, ça, c'est un moyen très direct et très concret pour m'aider à m'encourager à produire. Alors, pour ceux qui l'ont fait, merci à l'avance. Pour ceux qui vont le faire, ben n'hésitez pas, 1 euro par mois, 1 dollar par mois en fait, et ben vous pouvez arrêter ça n'importe quand. C'est très simple et vous pouvez même peut-être donner plus que 1 dollar par mois. Alors merci beaucoup par avance. Il y a aussi un autre moyen de m'encourager. En fait, deux autres moyens qui sont assez directs. Le premier en fait, ce serait de relayer les émissions.
lorsqu'une émission sort, ben vous la voyez sur Facebook, vous la voyez un peu partout. J'essaie de publier un peu partout dans les médias sociaux. Et ben de la partager, ça fait du bien de dire que l'émission, vous l'aimez. Et pourquoi vous l'aimez dans les médias sociaux, ça fait du bien. Et ça fait toujours plaisir. Et aussi, ben, dites-vous que les recommandations que vous faites à vos personnes, votre entourage, votre réseau, sont toujours beaucoup plus crédibles que n'importe quelle autre publicité que je pourrais faire et j'aurais pas certainement pas les moyens de faire. Alors, si vous voulez m'encourager directement Patreon, indirectement de la publicité que vous pouvez faire dans votre entourage, famille, amis, collègues, et ainsi de suite. Et finalement, le troisième moyen de m'aider, qui est assez concret, c'est de mettre un 5 étoiles dans le catalogue de podcast iTunes. Alors, c'est un catalogue de podcast directement sur Apple, on le comprend, mais ceux qui peuvent l'avoir sur PC aussi, vous pouvez le faire, ou dans votre téléphone, mettre un 5 étoiles, un petit commentaire, et ça aide toujours à ressortir un peu l'émission du lot des autres émissions. Alors, merci par avance de m'encourager, merci par avance de publiciser l'émission et de m'aider et de la noter. Merci beaucoup. On en est rendu à la partie applications. Je vous ai trouvé des petites applications intéressantes. La première s'appelle R Streets. C'est une application qui permettra aux piétons, aux cyclistes, aux gens qui circulent dans l'écosystème automobile, on va dire, des routes et ainsi de suite, dénoncer les automobilistes ou les personnes dangereuses. La relation entre les automobilistes et les autres utilisateurs du réseau routier, elle est complexe. À Montréal, à Québec, à Paris, à New York et ainsi de suite, ça c'est très complexe. Il y a des gens qui... J'ai vu dernièrement un reportage à Paris, je pense, où des pistes cyclables sont utilisées par des scooters. C'est un peu n'importe quoi. J'ai vu aussi des vidéos de trottinettes qui se passent entre les voitures, de vélos qui passent entre les voitures. Si vous êtes abonné à Priscille, à son streetcast, là, dans les bouchons, elle en parle souvent. D'ailleurs, maintenant, je pense qu'elle prend juste l'autobus. Mais ça a l'air d'être un problème. Bref, la métropole de Montréal n'est pas la seule dans cette situation. La preuve, c'est qu'une nouvelle application appelée R Streets, R-U-R-S-T-R-E-E, qui va bientôt sortir au moment où j'enregistre. Elle n'est pas encore disponible au Canada. Ils sont en train de faire la sortie un peu partout. D'ici à février, elle devrait être un peu partout. Le modèle d'affaires, c'est de fournir une application aux gens avec toutes les choses que ça prend pour pouvoir faire une dénonciation aux municipalités et après ça, envoyer cette dénonciation-là aux municipalités. Après ça, les municipalités vont faire quelque chose avec... je pense qu'il y a un partenariat aussi avec Uber et Lyft. C'est pas encore tout à fait clair. Sur leur site, ils disent pas grand-chose. J'ai vu quelques articles de journaux, mais ça a l'air d'être la grosse affaire qui arrive, R Streets. Ça sera officiellement lancé bientôt, tout dépendant les pays où vous êtes sur les applications iOS et Android. Vous allez pouvoir, dans l'interface, dénoncer des mauvais stationnements, des vitesses, des véhicules dangereux, et ainsi de suite. Ça promet d'aider tous les utilisateurs à dénoncer les véhicules qui respectent pas l'espace vital des piétons, des cyclistes qui causent des accidents. L'appli permettra aussi de signaler les trottinettes, les vélos, les libres-services qui obstruent la voie publique. Bref, c'est à suivre. J'ai pensé à plusieurs personnes qui m'écoutent et qui sont souvent dans leur auto. Peut-être on va l'essayer. J'ai hâte que ça sorte. Il y a le lien dans les notes de l'émission. Peut-être la mettre en marque-page et peut-être revérifier dans une semaine. En tout cas, pour le Canada, elle n'était pas encore disponible. Peut-être qu'en Europe, elle l'est. Je trouve ça super prometteur. On va voir. On va suivre. Est-ce que la police, chaque personne fait sa police, c'est une bonne idée? Je sais pas. Discutons-en dans les notes de l'émission, sur commentaires, dans les médias sociaux. Je suis ouvert à ça. Je suis un peu mitigé. Des fois, quand je suis l'abruti ou je suis un gros con sur la route, j'aimerais pas ça qu'on me dénonce. Mais peut-être que à force de le faire, j'aurais des amendes et des changerais de comportement. Je sais pas. Il y a une partie que j'aimerais ça dénoncer, mais j'ai une partie que j'aimerais pas me faire attraper. Je sais pas vous ce que vous en pensez. La deuxième application, elle est faite pour tous ceux qui ont des ordinateurs Windows. Il y a une version, je pense, pour Mac que j'avais trouvé, mais je m'en rappelle plus le nom, mais c'est pas la même. C'est pour ceux qui ont des ordinateurs Windows et qui savent pas vraiment quel répertoire prend le plus de ou le moins d'espace sur son ordinateur Windows. Depuis quelques temps, il y a plein d'ordinateurs avec des disques durs SSD qui sont plus rapides, plus performants, mais ce faisant, l'espace disque est plus limité. Ça devient des fois contraignant de trouver qu'est-ce qui prend de la place ou pas sur l'ordinateur. Alors moi, je vous propose cette application. C'est vraiment une des meilleures. C'est WizTree. C'est une application gratuite. Elle est très, très bien faite. Vous pouvez faire une donation si vous l'aimez. Ce que ça fait, c'est que ça va analyser tout votre disque dur. Ça va parcourir tout votre ordinateur et ça va vous mettre de façon visuelle l'espace ou les gros blocs qui sont pris par fichier. Alors, c'est vraiment pratique parce que des fois, on ne sait pas si dans un répertoire ou un autre, il y a plus de place ou d'espace est pris. Moi, je m'en suis souvent servi pour débusquer des fois des fichiers énormes que Windows mettait sur mon disque dur. Ça m'a vraiment sauvé de l'espace bien souvent et quand on dit de l'espace, ben c'est de la place en moins pour faire des backups, exemple, et c'est des choses que vous allez apprécier si vous avez des forfaits de sauvegarde dans le cloud, parce que ça, on paye au giga, on paye au poids, et des fois, de sauvegarder des choses inutiles, ben on paye pour rien. Alors, je vous la propose, elle est dans les notes de l'émission, c'est WizTree, gratuite, et si vous l'aimez, ben n'hésitez pas à faire une donation.
Personne dans le monde ne marche, ne rêve pas.
Oui, mon ami Willy, je l'aimais beaucoup cette série-là. Je sais pas si vous l'aimiez, moi je l'aimais bien. Ça me divertissait. Je l'ai revu, ça a mal vieilli, hein, par contre, mais c'est il y a des bonnes valeurs quand même là-dedans pour l'époque. Google Voyage. Google Voyage a mis à jour son site. Il est maintenant beaucoup plus simple de débusquer les meilleurs endroits pour aller voyager, de débusquer quand s'y rendre, de débusquer les meilleurs prix, les meilleures périodes. Je vous invite à aller sur le site Google Flight, Google Voyage. Les notes, le lien sera dans les notes de l'émission. Vous pouvez vous renseigner à partir, exemple, du Portugal, taper le nom du pays ou de l'hôtel, et un tableau va apparaître avec les trois options inédites, c'est-à-dire où séjourner dans la ville, le meilleur endroit, quand y aller, parce que ben, y a des fois des périodes au niveau de la saison, la température qui est un peu plus idéale, et puis après ça, le prix. À partir de ces trois équations-là, vous allez peut-être trouver le meilleur forfait. En tout cas, c'est ce que Google nous annonce, c'est ce que Google nous promet, et ça fait plaisir de voir que ben on va avoir des meilleurs guides, et en théorie, ça devrait pas être court-circuité par des mauvaises applications de publicité mauvaises comme on peut voir dans le domaine du voyage. Si vous voulez naviguer dans le dark web et que vous avez iOS et iPad, c'est assez difficile. C'était assez difficile jusqu'à il y a quelques temps. Une application qui est arrivée s'appelle Onion Browser. C'est une application qui vous permet d'aller dans le réseau Tor, le réseau du dark web où on peut s'acheter des affaires illégales, mais on peut aller voir de l'information libre pour certains pays. Bref, je jugerai pas le fait d'aller dans le dark web. Peut-être que le terme dark web est peut-être mauvais, mais bref, il y avait rien pour y aller à partir d'iPad et de iPhone. Et puis dernièrement, il y a une nouvelle application qui est promue par les gens qui sont dans le Tor projet. Ça s'appelle Onion Browser et j'ai mis le lien dans les notes de l'émission pour pouvoir aller ou activer ce navigateur là qui est censé vous protéger des gens qui vous observent. Pour dénoncer l'absurdité de certaines innovations présentées comme disruptives, ce terme-là, on l'entend beaucoup dans le domaine de la tech des fois avec des commerciaux. Au CES de Las Vegas, un entrepreneur français, Nicolas Baldec, a réussi à obtenir un stand pour y exposer Potato, la première patate intelligente. Il s'appelle Nicolas Baldec, il se présente au CES en ce moment 2020 et fait un pied de nez génial à l'ensemble de l'industrie tech capable qui se dit capable de changer le monde, mais aussi de produire des gadgets tous les plus inutiles les uns que les autres. Alors que le CES s'orgueillit d'exposer la crème de l'innovation mondiale en termes d'une sélection sur un dossier rigoureux, l'entrepreneur français a démontré l'absurde qu'il n'en est rien dans les faits. Une interface patate-machine à haut débit. Dans l'Eureka Park, l'espace qui accueille les startups, le jeune français expose Potato, une patate connectée. Son innovation, décoder le langage de la pomme de terre grâce à une carte électronique plantée dans le légume et connectée par Bluetooth à partir d'un smartphone. Dans son hilarant communiqué de presse, Nicolas Baldec précise que l'innovation repose sur le Neurospod, une interface patate-machine à haut débit. Pas de câble, pas de pile. Potato utilise la technologie de pointe de récupération d'énergie appelée Potom, en fait. Comment ça fonctionne? La pomme de terre a des électrolytes. C'est ce que les plantes recherchent et c'est ce qui alimente l'appareil, décrit le visionnaire dans l'expertise. Il y a une vidéo là-dedans. Il a fait une plateforme de financement participatif Indiegogo et a recueilli quand même 3 700 $ canadiens pour cette blague en fait, patate intelligente. Il vend des t-shirts, vous allez avoir un t-shirt si vous prenez le forfait à 29 $, vous allez avoir à 113 $ un paquet avec le pomme de terre paquet 3 là, où vous allez pouvoir planter dans votre pomme de terre. Il y a une patate, une application à la patate, bref, c'est un peu n'importe quoi. Le comité de sélection du CES n'y a vu que du feu. La blague aura coûté 4000 $ à Nicolas Baldec, 1000 $ pour la location du stand, 3000 $ pour le déplacement et l'hébergement à Las Vegas pour la semaine. À noter que le CES a accordé une place aux jeunes français suite à l'envoi d'un simple formulaire. Pour tromper la vigilance du salon, il suffit de montrer patte blanche et l'existence de l'innovation et de décrire avec certains mots buzzword, des certains mots là qui font AI, deep learning, tu sais, tu utilises des trucs comme ça dans ton formulaire, tu vas pouvoir aller au CES. Bref, c'était une blague. Et CES, il n'y a pas que des choses intelligentes. Visiblement, il y a des grosses conneries qui peuvent arriver des fois. Je voulais pas prendre cette actualité-là avec cette chanson-là, alors on va la changer. Parlant de conneries, je vais vous parler de Pavlok. Qu'est-ce que c'est Pavlok? C'est un gadget, et ça fit bien avec MacGyver, le générique. C'est un gadget, c'est un bracelet connecté. En fait, comment ça fonctionne? C'est un bracelet connecté pour améliorer les mauvaises habitudes, en fait, pour éloigner les mauvaises habitudes. Typiquement, ce que ça fait, ce bracelet-là, c'est que ça vous donne des petits chocs électriques désagréables. Alors, dès que vous commencez à fumer et que c'est quelque chose que vous voulez arrêter, vous activez Pavlok et il va vous envoyer des petits chocs électriques. Selon le site, 75% des fumeurs qui ont utilisé Pavlok ont arrêté de fumer en aussi peu que 10 jours. Et n'ont pas recommencé après 6 mois. De même que 80% des mordeurs de clous... mordeurs de clous? Ah non, c'est une traduction. Ceux qui se coupent, ceux qui se rongent les ongles ont arrêté aussi et n'ont pas recommencé. L'application, en fait, le bracelet vient avec une application que vous allez pouvoir vous connecter pour aider aussi à améliorer votre sommeil. Ça aide aussi à arrêter les mauvaises habitudes. Le bracelet Pavlok 2 coûte 150 $ pour améliorer son sommeil et pour briser les mauvaises habitudes en plus, ça coûte 199. Fait que le petit kit à 149 et là vous améliorez le sommeil et le gros kit pour améliorer le sommeil et briser les mauvaises habitudes, 199 $. Alors, est-ce que vous avez envie d'essayer des petits chocs électriques à la manière du chien de Pavlov? J'aimerais ça le savoir. Je trouve ça assez curieux quand même. Selon une étude dernièrement, jouer à Tetris est idéal pour traverser vos périodes de stress et d'anxiété. Dans la société occidentale moderne, la valeur du travail est valorisée, voire même glorifiée malgré les effets néfastes sur la santé mentale, suicide, burn-out. Nombreux sont les exemples de dommages dus à cette course de profit. Malgré les effets négatifs de cette pression constante, plusieurs études démontrent qu'une solution peut apaiser le stress qui existe. Le flot échappatoire notable au stress. Alors que le jeu vidéo est parfois taxé de violent par l'Organisation mondiale de la santé et qui a récemment reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale, leurs utilisations modérées pourraient aider à réduire le stress et l'anxiété, particulièrement pendant des périodes d'incertitude intense, ainsi que pour les travailleurs ayant un rythme quotidien très soutenu. Grosso modo, ce que vous allez pouvoir lire dans les études qui parlent de Tetris dernièrement, c'est que quand on joue à Tetris à la vitesse adaptative, là, pas la vitesse simple, pas la vitesse élevée, d'avoir une vitesse adaptative, ça semblerait améliorer augmenter progressivement le confort, le bien-être, on va dire ça comme ça. Mais quand vous êtes au mode adaptatif, ok, l'idée c'est de faire du classement, de ranger des choses et que y ait pas de stress par rapport à la vitesse, la performance et ainsi de suite. Là, c'est vraiment de commencer tranquillement et avec le mode adaptatif, apparemment que ça va améliorer votre santé mentale, on va dire ça comme ça. Ça vient d'une étude avec 290 participants. C'est une étude qui s'est faite aux États-Unis. Je sais pas si on peut y accorder plus de crédibilité que ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de vous la relayer parce que oui, c'est vrai que moi, dans mon cas, Tetris, ça me permet de réfléchir, de rester calme. Il y a d'autres jeux comme ça qui me le permettent. Là. Il n'y a pas juste Tetris, mais c'est sûr que c'est pas des jeux comme Fortnite. C'est pas des jeux où c'est assez compliqué de travailler la stratégie, d'avoir peur ou des jeux qui font peur même de crime. Mais des jeux comme Tetris où on classe des trucs. Je dirais à la rigueur Candy Crush où dans le temps j'avais Dr. Mario que j'aimais bien aussi. Des jeux où je classe des choses. Ça semble m'apaiser moi et je viens de voir que certaines études, tous les mois celles qui mentionnaient dans l'article, pensent à peu près la même chose que moi. Alors, on sait jamais, hein, peut-être que ça vous ferait du bien, peut-être, d'essayer ça. L'homme qui a inventé, le gourou en fait, qui a inventé la théorie du Inbox Zero, reconnaît que son conseil n'était pas très bon. Ça, vous allez pouvoir voir ça dans un article de Wired. J'aime beaucoup ce magazine Wired, qui est bien collé à l'histoire d'informatique que j'aime énormément. C'est Merlin Mann. Merlin Mann, c'est un des gourous du life hacking. Hein. Si vous avez téléchargé, vous avez écouté le documentaire sur life hacking, il fait partie des pontes de ce mouvement-là, ainsi que bien d'autres. Mais lui, c'est vraiment un des gourous qui a inventé le concept du inbox zéro, c'est-à-dire d'avoir toujours sa boîte de réception de email toujours à zéro. Dans l'article, il vous explique que lui, il le pratique même plus après plusieurs années, 20 ans, que je pense que cette théorie-là est sortie. Il explique aussi que lui, il pratique pas. Il explique aussi que on est en train de, avec la théorie du inbox zéro, d'être nous autres même des spammers, des gens qui renvoient des courriels à n'en plus finir pour avoir absolument un inbox zéro. On prend plus nécessairement le recul que ça prend. Et on devrait, c'est un de ses conseils qui est assez important, on devrait prendre en compte qu'il y aura toujours une boîte qui va se remplir et que notre focus est bien plus important que d'essayer de vider une boîte de courriels et aussi d'être capable de faire le tri sur les choses importantes. Ça aussi, c'est plus important même que d'avoir une boîte de courriel inbox zéro. Fait que bref, je trouvais ça intéressant de vous relayer ça. L'article, il y a plusieurs autres petits trucs de Merlin Mann. Exemple, prendre plus que 90 secondes pour traiter un courriel, un email, on faut faire attention quand on essaie de trier, d'aller vite. Il y a plein d'autres trucs, je vous le relaye, parce que c'est vraiment un des fondements du life hacking, où on parle d'avoir un inbox zéro pour pouvoir travailler. Par contre, ce qu'il dit, ce qu'il maintient à dire, c'est de limiter le temps de classement des emails à une période dans la journée, pas faire ça à la journée longue pour l'avoir absolument à zéro. Allez voir l'article et on en discute. Ça fera vraiment parler, je pense, dans les prochains mois, ce que Marilyn Mann a dit. C'est ce qui met fin à l'émission. Je vous rappelle que si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire dans la section « Contactez-moi » de tous mes sites, à peu près partout. Vous pouvez le faire aussi, idéalement, sur Twitter, à @profduweb, et aussi sur le site profduweb.com. N'oubliez pas d'aller noter l'émission, n'oubliez pas de mettre des commentaires et de faire évoluer le schmilblick, comme on dit. Si vous avez des choses qui vous ont interpellé pendant l'émission, ou si vous voulez donner des compléments d'information, ça fait toujours plaisir de mettre ça dans le site de l'émission. Et puis, je vous rappelle vos devoir pour le mois d'apprendre, d'aimer et de partager. Je vous souhaite un très bon mois. Ciao, ciao!